On va pouvoir passer maintenant à l'écoute du son qu'on a pris avec Ben fin novembre.
Oui, le 26, c'est
ça ? Le 26 novembre, salle battant.
Oui.
À l'occasion donc de la venue d'Olivier Besancenot pour un meeting.
Voilà. Oui, c'était à la veille des élections. C'était lesquelles des élections ?
Régionales.
Régionales, c'est ça.
Oui.
J'ai déjà oublié. Le NPA ne présentait pas de candidat sur la région Bourgogne-Franche-Comté, mais pour autant tenait en tout cas à faire comme un meeting avec.
Voilà. Donc, pour apporter une information supplémentaire, le NPA n'a pas présenté de candidat ou de candidate parce qu'il fallait un budget d'1,5 million d'euros minimum pour pouvoir présenter des gens, et faute de moyens,
d'accord,
ils n'ont pas pu.
Mais voilà, pas de candidat, mais beaucoup de monde dans la salle, oui, pour la venue d'Olivier Besancenot, qu'on a pu interroger accessible. C'était juste avant le meeting.
Est-ce que l'imbrication des deux, de porte-parole du NPA, ta casquette de citoyen qui s'engage dans des luttes, peut-être dans ton lieu de vie ou à d'autres endroits, pose des limites, du coup, quand on est porte-parole du NPA, quand on a une certaine notoriété, est-ce qu'on peut s'afficher aussi facilement? Est-ce que la lutte sur le terrain se passe de la même façon?
On va dire, quand tu as la représentation nationale, la représentation publique, c'est clair que t'es plus quelqu'un de lambda, malheureusement. Donc moi, j'en ai joué aussi. Chaque fois que j'ai pu en abuser, je ne me suis pas privé pour le faire. C'est-à-dire quand ça peut aider à renforcer des luttes, parce qu'on est dans une société très médiatisée. Donc c'est vrai que même ça, c'est un élément de la lutte. C'est triste à dire, mais tu es souvent confronté à des multinationales, à des firmes, à des gens qui ont de l'oseille, qui détestent la contre-publicité, par exemple. Donc c'est un des éléments de la lutte. Donc même pour mes propres mobilisations locales. Voilà, mais ceci étant, ceci étant, même à la Poste, d'ailleurs, ils ont toujours, même du côté de la direction, fait en sorte de me traiter ni plus ni moins que les autres, globalement. Donc c'est pas là où ça jouait le plus. Maintenant, la fonction de porte-parole, pour nous, c'est une tâche militante. C'est pas un poste, c'est pas une fonction, c'est encore moins un métier, et c'est pour ça qu'il faut que ça tourne. C'est-à-dire que c'est une tâche militante de la même manière que a été une tâche militante, celle de tous les camarades qui, par exemple, ont collé des affiches pour ce meeting tard le soir, ont distribué des tracts tôt le matin. Voilà, mais c'est une tâche un peu particulière, et comme elle touche à la question de la personnalisation qui est très en vogue aujourd'hui, parce qu'on vit dans une société un peu où il y a du reflux, c'est-à-dire qu'on vit dans une société qui est en crise, qui est compliquée, où on pousse les gens à rester le plus possible spectateurs, finalement, de là où se décide leur destin. Donc nous, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient dire « on s'occupe de vous à votre place ». Donc nous, on n'a pas envie de jouer sur ce sentiment-là, et c'est pour ça qu'il y a eu le choix des dernières présidentielles, qu'on est une porte-parole et qu'on veut amplifier ce truc-là d'une manière ou d'une autre, quoi. Elle est essentielle.
D'accord. Et d'un point de vue plus global, sur donc pas pour sortir du cas du NPA ou de ton cas, comment tu vois le développement des luttes depuis 10, 20 ans, même plus loin, est-ce que la mobilisation est toujours aussi présente en France, ou c'est les mouvements de contestation ont tendance à s'estomper ou à prendre d'autres formes ou à se radicaliser, plus, moins?
Bah disons, dans les mouvements de lutte, tu as toujours historiquement des cycles, des hauts et des bas. Et là, on n'est pas dans le haut de la vague. Ça serait, je pense. On a vécu des défaites sociales importantes, notamment celle de la mobilisation des retraites en 2010, qui a pesé sur les consciences. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mobilisation locale. C'est-à-dire que tu as énormément. Enfin, de là où on est, on voit quand même beaucoup de mobilisation locale sur des services publics, sur des questions de migrants et de réfugiés, sur des questions écologiques, par rapport à des projets écologiquement néfastes et inutiles. Tu as beaucoup de luttes sur des questions de sans-logis, tu as des mobilisations sur des entreprises où paradoxalement, tu as une portée plus subversive, parfois, par exemple, sur des résistances au licenciement ou les questions de réappropriation se pose peut-être plus facilement qu'il y a quelques années. Alors avec les limites de la société où on est, mais des projets de scope, de voilà, bon, t'as des cycles différents. Donc Le problème, c'est la coordination de toutes ces luttes-là. C'est ça dont on crève aujourd'hui, c'est-à-dire un problème d'unification pour que tu aies un mouvement global qui soit capable d'établir un rapport de force suffisant pour faire reculer ce qu'on a en face. Et ce qu'on a en face, ce n'est pas des rigolos. Donc face à ce truc qui paraît tellement difficile à atteindre, tu as deux écueils. Tu as l'écueil réformiste classique de ceux qui se disent « de toute façon, c'est mort, donc on va faire des cours de yoga le 1er mai ». Ça, c'est la proposition de la direction de la CFDT, par exemple, qui, le 1er mai dernier, a expliqué qu'il fallait déringardiser le 1er mai, donc ils ont proposé des cours de yoga pour la jeunesse. Bon, ça, super. Donc eux, ils disent qu'ils sont prêts à signer tout ce qui est à signer. Bon, ça, on connaît. Mais de l'autre côté, dans les secteurs les plus radicaux, tu as une autre illusion, c'est-à-dire comme c'est trop compliqué, on va rester que dans l'expérience locale. En pensant qu'une multitude de petites expériences locales vont pouvoir encercler notre ennemi, on va lui faire un coup à l'envers. Et ça aussi, ça a ses limites. C'est-à-dire que nous, on est pour renforcer toutes les expériences locales, mais toujours avec cette perspective d'unification. Par exemple, tu parlais d'expériences autogestionnaires, mais c'est vrai que, et là, même quand tu sors de nos frontières, c'est quelque chose, je pense, qui est revenu un peu au goût du jour ces 15 ou 20 dernières années, dans toute une série de luttes assez différentes. Hein. Tu touches des secteurs assez différents. Mais là aussi, il faut les favoriser, mais tu peux pas échapper à la société dans laquelle tu vis si tu poses pas les questions centrales de renversement du système. Par exemple, tous ceux qui ont fait des coopératives, des projets alternatifs, tu fabriques autrement à une échelle locale. Tu dis on va essayer de renvisager différemment les rapports hiérarchiques, ce qui est déjà pas une mince affaire, d'établir différemment le pouvoir de décider comment on fait la production, pour qui et pourquoi et comment, etc. Mais à un moment, il faut écouler ta marchandise. Et quand tu écoules ta marchandise, tu retombes sur quoi ? Sur le marché. Donc sur la réalité de la société capitaliste telle qu'elle est. Donc tu es toujours confronté à ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut, pour nous, c'est pas du tout contradictoire. C'est vraiment... mais le point d'équilibre, après, je vais pas te mentir, on l'a pas trouvé. Hein. C'est-à-dire... moi, je ne mens pas des rêves. Je dis qu'on est dans cette situation-là. C'est-à-dire que tu as à la fois beaucoup une aspiration radicale, des gens qui sont décidés à ne pas se laisser faire, mais un problème d'unification. Et c'est super complexe parce que prendre le temps de faire tout ça et en plus prendre le temps d'aller voir les autres, nous, à la différence des puissants et de ceux qui nous dominent, on a un boulot, on en cherche un. Et les journées, ils n'ont que 24 heures. Les autres, ils sont payés pour le faire. Donc,
Mais c'est vrai que du coup, par rapport à cette unification, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile de mobiliser des masses importantes, dans la rue en tout cas, pour se battre pour des luttes. Et est-ce que du coup, la société n'aurait pas tendance à se dépolitiser un petit peu ces dernières années ?
Moi je pense que les luttes locales, ça peut être la meilleure, et ça, enfin, d'ailleurs c'est la meilleure clé d'entrée de la politisation. Même si tu rejoins justement le projet de société pour lequel tu te bats, si nous on se bat pour une société où la démocratie fonctionne du bas vers le haut plutôt que du haut vers le bas comme c'est le cas actuellement, il faut partir par la bonne entrée. Et ceux qui commencent à prendre confiance dans leur propre lutte localement sur des objectifs concrets, c'est-à-dire les objectifs sur lesquels tu as prise, c'est déjà une clé d'entrée de la volonté de réappropriation démocratique, économique. Donc je pense pas que ça soit ça le signe de dépolitisation. Maintenant ça peut être une illusion, ça peut être un refuge. Si tu le conçois comme un refuge et que tu esquives les vrais problèmes, en effet, là, tu peux ne pas avancer. Maintenant, le problème de conscientisation et de dépolitisation dont tu parles, je crois qu'il vient surtout, du problème des luttes d'envergure qui nous manquent. Mais ça se décrète pas, ça se prépare pas autour d'une table ronde d'un quelconque état-major. Ce serait super tentant. Si c'était le cas, je pense que depuis le temps, on aurait trouvé la solution et puis on l'aurait déjà fait. En revanche, il y a des moments où la société craque. Et ça se décrète pas. En revanche, il s'agit d'être disponible à ça. Et là, on est en train de vivre, après les attentats, une période particulièrement plombée, où la question sociale, la question écologique, la question démocratique, elles sont encore plus renvoyées par la volonté de l'État le plus loin possible. Mais ça aussi, c'est très contradictoire. Tu regardes dans l'État espagnol, il y a eu des attentats de l'envergure de ceux qu'on a connus en 2004. Ça n'a pas empêché que l'État espagnol connaisse un puissant mouvement des indignés, des grandes marches avec des expériences d'auto-organisation, des luttes sur les questions de logement, une radicalisation politique derrière. Donc ce qui prouve que rien n'est figé, quoi. Donc moi, j'annonce rien, je ne lis pas dans le marc de café, mais je pense que tu as ces ingrédients-là qui existent dans la société française. C'est-à-dire que tu as ce truc qui couve où les gens en ont franchement plein le cul, quoi. Donc à un moment, il va falloir que ça sorte. Alors pour l'instant, ça ne s'exprime pas, ça ne se formule pas. Donc du coup, les gens, ils pètent les plombs, ils se trompent de colère. Tu as tout ça, quoi. Bon, mais ça ne veut pas dire que ce truc en profondeur, il a disparu de la société. Hein. Je ne crois pas ça.
En tout cas, ça sera d'autant plus compliqué les semaines à venir avec l'état d'urgence qui est décrété sur 3 mois. Donc,
ça sera d'autant plus compliqué.
Ça met encore plus de bâtons dans les roues, même si l'énergie serait là. Absolument.
Mais d'autant plus urgent de lutter contre. Parce que la bataille, elle se joue là-dessus. Là, tu as raison. C'est-à-dire que ça concentre tout.
Donc se mobiliser, par exemple.
Il faut, là maintenant, ce qu'il faut, je suis pas là pour dire il faut, mais en tous les cas, nous, on essaye, avec nos petits bras musclés, d'essayer de rassembler tous ceux et toutes celles qui veulent lutter pour lever l'état d'urgence. Parce que d'abord, c'est une fausse réponse, voire la pire des réponses au terrorisme. Parce que ça veut dire que tu vis dans une société où chacun se recroqueville sur lui-même. Et finalement, c'est aussi la stratégie des terroristes de faire ça. Donc, du point de vue de la réponse, ça apporte rien. Et puis, évidemment, ça te retire toutes les possibilités de t'exprimer. Et puis, c'est bien pratique pour ceux qui gouvernent. Et tout le monde, quel que soit, c'est peut-être ça qui va nous unifier, finalement. C'est que, quelle que soit sa clé d'entrée dans le clash que tu vas avoir avec la société, l'ordre dominant... Que tu y ailles énervé ou pacifique, quel que soit ton mode de départ, tu vas être confronté au même problème. C'est que tu vas avoir la préfecture qui va te dire « c'est mort ». Et toi, tu peux arriver à base de pétition ou à base de « je veux y aller cagouler », peu importe la solution à laquelle tu arrives, tu vas être confronté au même problème. Donc il va falloir que tous ces joueurs s'unissent en disant « mais écoutez, là on est confronté à ce moment-là, il faut le lever au plus vite ». Et là, ça a commencé. Hein. Là, en ce moment, je te parle, tu as un rassemblement à République, je ne sais pas comment il s'organise. Comment il arrive à Paris, je ne sais pas comment il aboutit, mais d'ores et déjà, tu as eu suite à la manifestation maintenue à juste titre pour les migrants, pour l'ouverture des frontières, c'est-à-dire en défense aussi d'une bonne partie de ceux qui fuient le terrorisme, précisément. 58 personnes qui ont été convoquées par la police et qui vont dont y compris des personnalités du mouvement social, comme Jean-Baptiste Hérault ou d'autres. C'est pas une petite affaire. C'est, voilà, derrière ça... Et ça, c'était déjà dans l'air du temps, avant les attentats. C'est-à-dire qu'on sent bien que... C'est pour ça que tu as une question d'opportunité pour les classes dominantes. Hein. La répression dans les entreprises, on connaît. Les conseils de discipline qui se généralisent, on connaît. L'affaire des salariés d'Air France, on connaît. Des manifestants qui se font toper et qui se font choper en comparution immédiate dans des manifestations, justement, écologiques, des zadistes, des militants de quartier. Enfin, tout ça, c'est quelque chose qui a eu tendance à se renforcer. Donc là, on est face à une stratégie globale en face de nous. Donc face à cette stratégie, il faut essayer d'établir une contre-stratégie globale avec des horizons militants, politiques, syndicalistes, sociaux, culturels, qui ne viennent pas des mêmes horizons. Et le problème, c'est comme on n'a pas des mêmes horizons, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence. Et on n'arrive pas à dépasser ce truc-là parce que les histoires ne sont pas les mêmes. Et le problème, c'est qu'il va falloir qu'on se mette une pile dans le derrière et qu'on arrive à dépasser tout ça. Parce que sinon, au-delà des désaccords qu'on peut avoir entre telle ou telle filiation, tel ou tel courant... on sera bon qu'il y a discuté qu'entre nous, en vase clos, de nos désaccords, parce qu'on n'aura même plus eu l'opportunité de l'exprimer grand public. Donc personne n'a gagné quoi que ce soit là-dedans. Donc c'est Olivier Besancenot pour l'émission Poil à gratter, en espérant qu'il y ait du poil à gratter dans les idées, dans les discussions et dans les combats. Voilà. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I have lost my wife and children, but I have many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers of my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadows.
chez moi. Ils me disent résigne-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
Oh, the wind is blowing, through the graves the wind is blowing.